Welcome to the Voice of America in French.
Bienvenue. La Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique.
Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30 PU et tous les soirs à 18h30 PU.
Et sur Internet à www.lavoixdelamérique.com.
Bonsoir, Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver pour un tour d'horizon de l'actualité en ce samedi 22 novembre 2014. Les islamistes somaliens ont exécuté ce samedi 28 passagers d'un autobus dans la région de Mandera, dans le nord-est du Kenya. Les assaillants ont tendu une embuscade aux véhicules à la sortie de Mandera, ville frontière avec la Somalie. Ils ont ensuite contraint les 60 voyageurs à descendre de l'autocar afin de séparer les musulmans des non-musulmans avant d'abattre ces derniers. Dans un communiqué, Al-Shabaab a revendiqué l'attaque en la présentant comme une action de représailles après les raids lancés cette semaine par la police kényane contre deux mosquées de la ville portuaire de Mombasa, réputées favorables aux islamistes. Le Kenya a été le théâtre d'une série d'attaques armées et d'attentats à la bombe imputés à Al-Shabaab depuis le déploiement en 2011 de troupes kényanes en Somalie. Le Mali a enregistré un nouveau cas d'Ebola. Dans un communiqué émis samedi, le ministère malien de la Santé a indiqué que cette personne a été admise dans une unité de soins intensifs à Bamako. Parmi deux cas suspects qui étaient en cours de test, l'un a été déclaré négatif, l'autre positif. Ce dernier a été placé en centre d'isolement pour un traitement intensif. Selon le communiqué, 310 personnes susceptibles d'être contaminées par Ebola sont sous surveillance médicale, d'après le même communiqué. Le Mali, dernier pays à avoir été contaminé par Ebola, a enregistré 7 décès dus au virus de la fièvre hémorragique. D'après des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé publiés hier, l'épidémie de fièvre Ebola a fait 5459 morts sur plus de 15 000 cas répertoriés dans 8 pays, dont la majorité dans 3 pays ouest-africains, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a déclaré hier qu'il y a eu des progrès dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, mais a averti que le combat était loin d'être terminé. Le Burkina Faso attendait ce samedi de connaître son gouvernement pour une transition d'un an, un test majeur sur le rapport de force entre le président intérimaire Michel Kafando et son premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida. Un officier proche du lieutenant-colonel Zida confiait à l'AFP que c'était l'heure des ultimes petits réglages. Le lieutenant-colonel Zida était devenu l'homme fort du pays depuis la chute du président Blaise Compaoré le 31 octobre, chassé par la rue après 27 ans de règne. Selon le même proche, le Premier ministre Zida doit présenter la composition du gouvernement au président Kafando ce samedi. Le casting ministériel avait été annoncé pour jeudi, puis pour samedi au plus tard. Des divergences et rivalités au sein de l'opposition et de la société civile ont compliqué le processus. La Fédération internationale des droits de l'homme a demandé ce samedi la libération immédiate de deux militants rwandais des droits de l'homme arrêtés hier au Rwanda. La FIDH a dénoncé ce qu'elle appelle une mainmise des autorités rwandaises sur l'ONG. D'après l'AFP, Daniel Uwimana et Evariste Sabeyuzu, deux membres de la Ligue rwandaise de promotion et de défense des droits de l'homme, la LIPRODOR, affiliée à la FIDH, sont accusés d'usage de faux documents. Selon Elie Sinza Bakwira, l'actuelle secrétaire exécutive de la LIPRODOR, la lettre réclamant la convocation d'une assemblée générale comportait des signatures falsifiées. La FIDH estime l'actuelle direction de la LIPRODOR illégitime et croit que ces arrestations ont pour but d'entraver l'organisation de l'Assemblée générale et de garder la mainmise sur une des dernières ONG indépendantes de défense des droits humains au Rwanda. Au Bahreïn, les électeurs se rendaient aux urnes ce samedi pour élire leurs députés à l'occasion des premières élections générales depuis la contestation anti-régime de 2011 qui sont boycottées par l'opposition chiite de ce petit royaume du Golfe allié des États-Unis. Au terme d'une campagne interne des candidats pour la plupart sunnites, la majorité chiite s'est fortement mobilisée pour assurer la réussite du boycott. Et puis rapidement pour vous dire que les chances de parvenir à un accord complet sur le programme nucléaire de Téhéran d'ici lundi apparaissent ce samedi de plus en plus réduites, l'Iran et les grandes puissances puissantes réunies à Vienne.
Tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
Washington, la voix de l'Amérique, Amigro Didier avec vous pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord, des chercheurs de l'Institut Pascal en France ont développé un nouveau véhicule sans chauffeur.
Le système de guidage de ce véhicule est un système bas coût qui est fondé uniquement sur l'exploitation de simples caméras vidéo.
On suivra les explications de Michel Daume, directeur de recherche CNRS en France. Au Cameroun, popularité croissante du service surnommé Calculateur 28 qui permet de calculer un cycle menstruel par SMS en vue d'une planification familiale responsable.
La plupart des femmes ne connaissent pas ce qu'on appelle le cycle menstruel. La plupart des femmes ne connaissent pas. Au moins 40% des femmes ne se rappellent même pas de leur dernier date de règles.
Michel Joseph aura tous les détails et des chercheurs américains ont utilisé des instruments de géopositionnement pour détecter des glissements de plaques tectoniques très lents. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé la fin de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en République démocratique du Congo. La RDC avait récemment fait une annonce similaire. Dans son communiqué, l'OMS a précisé qu'aucun cas du virus n'a été détecté depuis 42 jours, soit deux fois la période d'incubation maximale. L'épidémie dans la province d'Équateur a coûté la vie à une cinquantaine de personnes. D'autre part, un médecin cubain qui a été contaminé par le virus en Sierra Leone, puis hospitalisé en Suisse, se trouve dans un état stable. Et au Mali, un médecin est mort du virus jeudi. En Côte d'Ivoire, qui partage des frontières avec la Guinée, le Libéria et le Mali, des campagnes d'information sont en cours, tandis que les travailleurs sociaux communautaires font du porte-à-porte pour promouvoir des comportements sanitaires sains. En Guinée-Bissau, 10 000 travailleurs communautaires seront informés quant aux moyens d'affronter l'Ebola et au Bénin, 50 stations de radio locales diffusent des messages pédagogiques sur l'Ebola dans les 8 langues principales du pays. Washington, la voix de l'Amérique, toujours concernant l'épidémie d'Ebola, eh bien, le docteur Kent Brantley, le médecin américain qui est devenu le tout premier malade de la fièvre hémorragique à virus Ebola à être soigné aux États-Unis, se dit préoccupé par la mise en quarantaine obligatoire de travailleurs humanitaires à leur retour d'Afrique de l'Ouest. Le point avec Anne Albertson.
La façon dont les volontaires sont traités à leur retour aux États-Unis aura un impact direct sur ceux qui envisagent de les imiter en allant offrir leurs services en Afrique pour aider les victimes de l'Ebola, a déclaré le docteur Kent Brantley. Si nous les plaçons en quarantaine et les traitons comme des criminels quand ils reviennent, en leur disant qu'ils doivent rester à la maison et n'avoir aucun contact avec les gens, c'est préjudiciable de multiples façons, a déclaré le docteur Brantley. On ne saurait traiter des travailleurs de la santé qui risquent leur vie comme des criminels, a-t-il ajouté. Sinon, comment trouveront-ils en eux la compassion nécessaire pour soigner les malades ? Le docteur Brantley s'exprimait à l'occasion d'une rencontre au département d'État américain. Il a également évoqué son travail au Libéria avec les malades de l'Ebola. Nous devons les aider. Ils ont désespérément besoin de l'aide de la communauté internationale, a souligné le docteur Brantley, qui a par ailleurs appelé les États à se doter d'une politique commune pour gérer le retour des volontaires de la santé d'Afrique de l'Ouest.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, vous suivez Carrefour Science et Santé, Camille Grosdidier avec vous. À l'occasion de la Journée internationale des toilettes, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a rappelé qu'actuellement dans le monde, une femme sur trois n'a pas accès à des toilettes sûres et se trouve de ce fait exposée à la maladie et à la honte, ainsi qu'à des violences. Des détails avec Jean-Roger Bion.
1,250,000,000 de personnes à travers le monde pourraient voir leur sécurité et leur santé s'améliorer par la généralisation de l'assainissement, a indiqué Ban Ki-moon à l'occasion de la Journée internationale des toilettes. Le secrétaire général de l'ONU a rappelé que l'équipement des écoles en toilettes propres et sûres est un facteur de scolarisation des filles. 2,5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à un assainissement de base, comme les toilettes et les latrines, précisent les Nations Unies. Les conséquences sont dramatiques pour la santé et la dignité humaine, la sécurité, l'environnement et le développement économique et social. Alors que les pays travaillent au programme de développement durable pour l'après 2015, il est impératif de relever le défi de l'assainissement, a poursuivi M. Ban, notamment en aidant les populations locales qui cherchent à en finir avec la défécation à l'air libre et en intensifiant les activités de sensibilisation et en brisant les tabous.
Washington, Camille Grosdidier pour le magazine Carrefour Sciences et Santé. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Des chercheurs de l'Institut Pascal en France ont développé un nouveau véhicule sans chauffeur. Il ne s'agit pas d'une jumelle de la Google Car, mais plutôt d'une navette sans chauffeur, mise au point grâce à une technologie innovante de guidage par vision artificielle qui permet une localisation fiable et peu coûteuse du véhicule sur la chaussée. Pour plus de précisions, on écoute Michel Dohme, directeur de recherche CNRS.
La grande différence entre la Google Car et l'EasyTen, qui est le nom de cette navette, en fin de compte, c'est à mon avis une grande différence au niveau de la réalité économique, c'est-à-dire que le système de guidage de ce véhicule est un système bas coût qui est fondé uniquement sur l'exploitation de simples caméras vidéo. Alors que la Google Car utilise un capteur qu'on appelle Velodyne, qui est un capteur tournant 64 plans ou 32 plans, mais en gros ce type de capteur coûte à peu près 1 000 euros le plan. Donc c'est un capteur qui avoisine les 60 000 euros, donc qui est plus cher que le prix de la voiture. Dans le projet EasyTen, donc le laboratoire a apporté finalement une fonction de localisation bas coût, une alternative, je dirais, à ces capteurs très haut de gamme, avec l'exploitation d'une simple caméra vidéo.
Vous utilisez une ou plusieurs caméras vidéo ?
Il y a deux caméras vidéo, une à l'avant, une à l'arrière. Ceci juste pour des raisons de sécurité. Il se peut très bien qu'en début de journée ou en fin de journée, le véhicule fonctionne face au soleil, donc soleil levant ou soleil couchant. Et dans ce cas-là, la caméra peut être éblouie par le soleil. Et donc, au contraire, la caméra arrière et elle rétroéclairée, donc avec des conditions de lumière qui sont très favorables.
Alors quel marché vise la navette ?
Le marché cible n'est absolument pas le véhicule automatique. On est sur la navette automatique. Donc en gros, c'est essayer de résoudre le problème du dernier kilomètre. Donc c'est complémentaire avec les transports en commun. Ça peut être déployé à la sortie d'une gare de train, ça peut être à la sortie d'une station de métro pour faire les 1 000 ou 2 000 mètres restants. En fin de compte, et pour ça, je vais expliquer comment fonctionne le système. C'est quelque chose qui est basé en deux étapes. Il y a une étape d'apprentissage et une étape d'exploitation en ligne. La base, enfin, ou l'étape d'apprentissage, le véhicule est conduit manuellement, donc à travers un joystick ou un volant. Et pendant cette étape, donc le conducteur va circuler sur la bonne chaussée, au bon endroit. Les caméras vidéo vont enregistrer une séquence vidéo qui va être la séquence vidéo de référence. Et lorsque le véhicule se déplace après sans chauffeur, le logiciel qui est embarqué, donc l'intelligence embarquée dans le véhicule, fait que les commandes sont envoyés donc aux actionneurs du véhicule, fait qu'il va essayer de reproduire au plus proche la vidéo de référence. Le véhicule ne circulera que là où il a appris son environnement. Mais après, une fois qu'il a appris son environnement, il est capable de reproduire à l'infini ses trajectoires, sans aucun problème.
Alors la navette peut détecter la présence d'objets ou d'obstacles à combien de mètres de distance ?
Ce n'est pas le système vidéo qui détecte les obstacles. Le véhicule EasyTen embarque 4 télémètres laser, un dans chaque angle du véhicule. Ce sont des capteurs qui représentent donc un plan laser qui ouvre à 270 degrés. Donc finalement, on regarde avec les 4 capteurs finalement de manière redondante. Par exemple, les 2 capteurs avant regardent la même chose à l'avant du véhicule. Les 2 capteurs à droite regardent ce qui se passe à droite, mais ils sont redondants, c'est-à-dire qu'on a 2 fois la même lecture. Donc ce qui permet, par exemple, si un des capteurs tombe en panne, d'avoir toujours 360 degrés regardé autour du véhicule. Et ces capteurs portent jusqu'à 50 mètres. Donc en fin de compte, il faut imaginer qu'on a une espèce de scanner horizontal qui est placé à 20 cm du sol et qui regarde tout ce qui se passe dans un rayon de 50 mètres autour du véhicule. Et c'est ces télémètres laser qui permettent de détecter les obstacles, qui vont analyser la trajectoire de ces obstacles. Et si la trajectoire des obstacles sont dangereux ou représentent un danger pour le véhicule va ralentir. Et si l'obstacle, par exemple, c'est quelqu'un qui est en train de discuter sur la voie du véhicule, le véhicule va s'arrêter. Si la personne se met à marcher dans le sens de progression du véhicule, le véhicule va adapter sa vitesse à la vitesse du déplacement de cet obstacle.
Monsieur Michel Dôme, directeur de recherche CNRS, il était joint en France. Les technologies mises au point pour le développement de la navette sans chauffeur par les chercheurs de l'Institut Pascal ont été présentées début novembre lors du Michelin Challenge Bibendum à Chengdu, en Chine. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Vous suivez le magazine hebdomadaire Carrefour Science et Santé en compagnie de Camille Grosdidier. Au Cameroun, popularité croissante du service surnommé Calculateur 28. Il permet de calculer un cycle menstruel par SMS en vue d'une planification familiale responsable. Les précisions de Michel Joseph.
Le Cameroun est le 7e pays à adopter ce service dit Calculateur 28. En quoi consiste-t-il? Voilà, en envoyant un SMS avec quelques informations à un numéro court, les utilisateurs reçoivent un message comportant la date des prochaines règles, la date prévisible d'ovulation et donc la période estimée de fécondité en s'adaptant à la durée du cycle régulier. L'utilisation du téléphone mobile comme vecteur de sensibilisation permet également aux hommes de calculer le cycle féminin de leur femme ou partenaire et de maîtriser les dates importantes qu'elles-mêmes pourraient oublier. Ce qui fait que le contrôle de la fécondité ne repose plus seulement sur la femme, mais sur le couple. L'OMS calcule qu'environ 222 millions de femmes des pays en développement aimeraient retarder les naissances ou cesser d'avoir des enfants. Mais elles n'ont pas accès à la contraception pour de multiples raisons. C'est ce qui a poussé Paul Frank Njenjet Gonjout, qui est né au Gabon, à mettre au point le calculateur 28. Le calculateur 28 fait le travail pour elle, ajoute-t-il.
Les gens qui utilisent notre application doivent envoyer un message avec la date des dernières règles et leur durée, et ils reçoivent la date de la prochaine menstruation, la période fertile et la date de l'ovulation.
Cet outil informatique pourrait avoir un impact énorme en Afrique, estime la gynécologue Toumassang Florence de l'hôpital central de Yaoundé.
L'importance de ce projet, c'est parce qu'on a des problèmes de planning familial. La plupart des femmes ne connaissent pas ce qu'on appelle le cycle menstruel. La plupart des femmes ne connaissent pas. Au moins 40% des femmes ne se rappellent même pas de leur dernière date de règles. Alors si une femme ne se rappelle pas de ses dernières dates de règles, c'est de la même façon qu'elle va avoir une grossesse quand elle ne veut pas ou ne pas savoir chercher la grossesse quand elle le cherche.
Mais qu'en est-il des femmes qui ne disposent pas d'un cellulaire? Le calculateur 28 est un système qui peut également leur être livré sous forme d'un guide simple. Elles pourront alors calculer elles-mêmes leur cycle menstruel. Parmi les pays qui utilisent déjà le calculateur 28, selon M. Franck, le Gabon, Sénégal, Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, en plus du Cameroun. À terme, toute l'Afrique devrait être couverte, ajoute-t-il. Il faut dire que le système intéresse non seulement les Africaines, mais leurs partenaires. On écoute Eugène Paul Ndamba qui affirme que 4 des 9 grossesses de son épouse n'ont pas été planifiées.
Quand je vois la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre des Enseignements secondaires, le ministre de l'Éducation de base, le ministre de la Santé, le ministre des Affaires sociales, le ministre de la Promotion de la Femme, moi je crois que c'est une grande bénédiction pour ce projet. Vous voyez un peu les grossesses indésirées dans nos lycées, dans nos collèges. Quand on sait aujourd'hui qu'à 13 ans, certaines filles ont des rapports sexuels. Il y a des filles, même à l'université, qui ne savent pas calculer. On voit 40% au Cameroun, c'est trop.
Un récent rapport des Nations Unies montre qu'en l'absence de meilleures politiques de planning familial, 40% des 2 milliards d'enfants nés en Afrique d'ici à 2035 n'auront pas été désirés.
Vous suivez Carrefour Science et Santé, Camille Grodidi avec vous, vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Amérique. Plus de 20 ans après la première conférence internationale sur la nutrition, une seconde édition a eu lieu cette semaine à Rome. À cette occasion, les participants ont finalisé la déclaration de Rome sur la nutrition, un document qui définira l'orientation des politiques en matière de nutrition pour les années à venir. La FAO chiffre à entre 2,8 et 3,5 milliards de dollars, soit 4 à 5 % du PIB mondial, le coût de la malnutrition, car elle réduit la productivité et empêche les gens de réaliser leur potentiel. Une personne sur 9 se couche le ventre creux chaque jour à travers le monde, rappelle l'organisation onusienne. Jointe à Rome, Charlotte Dufour, conseillère en sécurité alimentaire et nutrition à la FAO, a évoqué la complexité du problème de la bonne nutrition. On l'écoute.
Il y a différents problèmes qui se posent. Parfois, il y a assez de nourriture dans le pays, mais les gens les plus pauvres n'y ont peut-être pas accès. Parfois, cette nourriture est trop chère, ou alors il n'y a pas de marché ou de route qui permet aux aliments de les atteindre, par exemple pendant l'hiver, quand les routes sont coupées par la neige. Mais il y a aussi un problème de diversité alimentaire. On sait qu'il n'est pas suffisant de manger assez de céréales ou de pommes de terre qui vont remplir le ventre. Il est aussi très important d'avoir des fruits, des légumes, des produits animaux tels que le lait, mais aussi des légumineuses telles que les lentilles, les pois chiches, pour être en bonne santé.
Quelles sont les initiatives envisagées par la FAO pour remédier à ce problème ?
Alors, la FAO travaille sur l'ensemble du système alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a des actions à mettre en place au niveau de l'amélioration de la production, à la fois intensifier l'agriculture pour augmenter la productivité tout en respectant l'environnement, mais aussi diversifier cette production. Ensuite, on peut travailler sur la transformation, améliorer la capacité de stockage des aliments, les conditions de transport, l'accès au marché de ces aliments. Et on fait beaucoup de travail aussi sur l'éducation des consommateurs, ainsi qu'aider les gouvernements à mettre en place des règles, des normes pour protéger ce consommateur, c'est-à-dire assurer que les aliments sont de bonne qualité et respectent les normes de santé. La FAO travaille toujours en appui au gouvernement, à la définition de leur politique et les aide dans la mise en place de programmes nationaux. Donc c'est un rôle essentiellement d'appui.
La FAO estime que l'aquaculture a son rôle à jouer dans l'amélioration de la nutrition. Comment ?
L'aquaculture a un rôle important à niveau, par exemple, de la production pour augmenter la disponibilité de poissons qui sont une très forte source de nutriments tels que des minéraux, mais aussi certaines vitamines. L'aquaculture peut être aussi une source de revenus pour les familles pauvres et donc leur permettre soit d'acheter d'autres aliments qu'elles n'ont pas ou alors d'avoir accès aux soins de santé ou de renvoyer leurs enfants à l'école qui leur permettra d'obtenir un bon emploi plus tard. Tout cela sont les différentes manières dont l'agriculture ou l'aquaculture peuvent contribuer à améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire des ménages.
Alors même que des dizaines de millions d'êtres humains manquent de micronutriments, ils sont en même temps en surpoids. Le problème de l'obésité est en pleine expansion à travers le monde. Pourquoi ?
Alors en effet aussi, on voit qu'aujourd'hui 500 millions d'adultes sont obèses. Pourquoi ? Il y a une question souvent de pratique alimentaire, donc peut-être de connaissances ou même d'habitude. On connaît l'augmentation de la consommation de soda, par exemple, qui sont très riches en sucre, l'augmentation de consommation de plats tout préparés qui peuvent être très riches en graisse, en sucre, en sel, donc en trop grande quantité. Donc il peut être une question surtout de pratique. Mais il y a aussi derrière une question économique. Souvent, pour des familles pauvres, notamment en zone urbaine, donc des familles qui ne produisent pas leurs propres aliments, ils se nourrissent essentiellement de pâtes, de farine ou d'aliments ou de soda, donc ils sont souvent les moins chers, alors que des fruits, des légumes, le lait, la viande leur sont inaccessibles économiquement. Et c'est pour cela que la FAO propose de travailler de façon intégrée sur les systèmes alimentaires et de regarder la qualité de l'alimentation dans son ensemble. Ni trop, ni trop peu, et surtout diversifié.
Charlotte Dufour, conseillère en sécurité alimentaire et en nutrition à la FAO, qui évoquait la complexité du problème de la bonne nutrition. Washington, la Voix de l'Amérique, vous écoutez Carrefour Science et Santé. Apparition du virus Lassa au Bénin. Cette fièvre hémorragique causée par un arénavirus est endémique dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest où le virus infecte de 100 à 300 000 personnes par an. Et chaque année, entre 5 à 6 000 personnes succombent à la maladie. Tout comme pour le virus à Ebola, il n'existe à ce jour aucun vaccin contre la fièvre de Lassa qui représente un grand problème de santé publique. Selon notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba, plusieurs décès dus à cette fièvre ont été récemment signalés à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta, dans le nord du pays. La ministre béninoise de la Santé l'a annoncé cette semaine lors d'un point de presse en compagnie du représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin. Je vous propose de suivre ce reportage de Peggy Ludovic Dagba.
Après l'annonce des 5 cas de décès survenus à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta, dans le nord du Bénin, la ministre béninoise de la Santé a conduit une mission d'investigation dans l'hôpital. Les analyses des prélèvements ont révélé 2 cas positifs à la fièvre hémorragique Lassa, voisine du virus Ebola. Dorothée Akokoké-Negazar.
La fièvre de Lassa, c'est également une maladie virale, mais moins létale, c'est-à-dire qui cause beaucoup moins de décès que la fièvre à virus Ebola. C'est également une fièvre hémorragique. Donc les symptômes sont pratiquement voisins.
Contrairement au virus Ebola, le virus Lassa dispose d'un traitement pour en venir à bout, la ribavirine, mais qui n'est pas disponible pour l'instant au Bénin. Et la ministre dit prendre certaines mesures, non seulement pour sa mise à disposition, mais aussi et surtout pour prévenir des cas de contamination. Le représentant résident de l'OMS au Bénin, pour sa part, va expliquer comment l'organisme compte aider le Bénin à faire face à cette nouvelle épidémie. Youssouf Gamatier.
Pour le moment, nous pensons que c'est une épidémie qui pourra être jugulée plutôt rapidement si nous arrivons à établir et mettre en place un système efficace et effectif pour la recherche des contacts et puis pour leur prise en charge immédiate.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
Voilà, et pour finir cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique, eh bien, les scientifiques rêvent toujours de pouvoir prédire plus exactement les tremblements de terre, même s'ils savent en gros où ils vont probablement survenir. Et justement, un géologue américain et son équipe affirment qu'on peut, dès à présent, prédire la force d'un séisme. Jacques Aristide nous en dit plus.
La croûte terrestre est constituée d'une mosaïque de plaques tectoniques qui se déplacent lentement, glissant dans certains cas l'une sous l'autre. Dans ces zones dites de subduction, des tremblements de terre peuvent se produire. Il s'agit du même type de tremblement de terre que le grand séisme survenu au Japon en 2011 ou encore le tremblement de terre et le tsunami de Sumatra en 2004, explique Timothy Dixon, géologue à l'Université de Floride méridionale. Monsieur Dixon et ses collègues ont utilisé des instruments de géopositionnement pour détecter des glissements de plaques tectoniques très lents, si lents qu'ils ne peuvent être identifiés par des instruments traditionnels. Il évoque une cocotte minute qui fuirait et qui donc laisserait échapper suffisamment de pression pour que rien ne saute. En quelque sorte, ces glissements lents permettent à la Terre de se défouler. Là où ils interviennent, la faille tectonique ne se rompra pas subitement, explique-t-il, ce qui permettrait d'éviter un séisme majeur. Savoir mieux à quoi s'en tenir sur une faille tectonique quelconque permettrait aux autorités de se préparer, ajoute M. Dixon. Les lois régissant la construction pourraient être renforcées, les infrastructures également. Vous savez, un tremblement de terre est plus ou moins inévitable, même si vous ne savez pas exactement quand il surviendra. Lorsque vous savez que ça va arriver et quelle sera son ampleur, vous pouvez vous préparer en conséquence, fait valoir le géologue. Les conclusions des chercheurs ont été publiées dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.
Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme de La Voix de l'Amérique, au micro Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivi.